Je m'appelle Julia Foyce, je suis journaliste et j'ai eu très envie de comprendre de l'intérieur ce qu'on vit, comment on le vit quand on sort de la norme, quand un et un ne font pas toujours deux, quand ton rapport au réel n'est pas tout à fait classique. J'ai proposé à Max, Ali, Agathe, Abigail et Stan de me raconter leur quotidien sous forme de notes vocales enregistrées sur leur smartphone, envoyées sur le mien. Comme ça, sans filtre, sans intermédiaire, sans expert en santé mentale, aucun. J'en avais marre qu'on parle à leur place, je voulais qu'on les laisse exister dans toute leur singularité. Voilà donc leur carnet de bord version 5G, avec dans cet épisode, une Abigail qui file à la campagne le jour de son anniversaire.
Donc là, je suis dans la maison de campagne de ma pote Mara. On est vraiment à une heure de Paris, et c'est une maison de campagne, mais hyper extraordinaire, en bois, avec des petits volets bleus. Et c'est typiquement le genre de maison que moi, je rêve d'avoir plus tard dans ma vie. On est en plein mois d'août, il fait beau, il fait chaud. On est tous super bien apprêtés. Du coup, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 28 ans. Mon anniversaire, c'est toujours une date très difficile pour moi à passer parce que on célèbre la vie. Et moi, j'ai toujours vécu ça comme une très grande injustice, le fait d'être en vie, parce que personne ne m'a demandé si oui ou non j'avais envie d'exister sur Terre. Et c'est surtout, moi, avec mes troubles psy, j'ai fait beaucoup de tentatives de suicide. Et la date de mon anniversaire est toujours une date difficile à passer pour ces raisons-là. Mais c'est aussi ce truc de se sentir un peu toujours sur le fil, à l'image du trouble borderline. Hein, on est toujours sur un fil tout le temps.
Abigail Barrange l'est d'abord vue sur Instagram. Son compte, voyageuse au naturel, la montrait bourlinguant partout, sac au dos, sourire aux lèvres, seule et libre, ça m'épatait. Je veux dire, moi qui suis infoutue de sortir de chez moi sans vérifier 10 fois que j'ai fermé la porte à clé. Sur son profil, il y avait marqué « Borderline, militante santé mentale ». Alors évidemment, j'ai eu envie de la rencontrer. Elle a dit oui. Tout de suite, on s'est vus, très vite. On a parlé de ses engagements profonds, de ses 52 000 abonnés fidèles, et puis de cette pente douce amorcée à 9 ans, premier nuage, l'enfance qui tremble, première tentative de suicide, elle a 14 ans, à 15, elle est sous antidépresseur, ça ne suffit pas, novembre 2020, première hospitalisation brutale, violente, qui la laisse chancelante, et elle en sort, et elle y retourne, 9 mois d'HP en tout, et puis ça y est, le diagnostic, trouble de la personnalité borderline, soit fluctuation extrême de l'humeur et de l'image de soi, hypersensibilité, dépendance affective. Un coup de bambou, les mots cognent d'abord, et puis ils soulagent. Les siens de mots, elle va s'en servir et ils vont porter loin pour percer enfin la camisole de silence qui enferme la santé mentale dans cette chambre capitonnée. Depuis, en 4 ans, elle a créé une chaîne YouTube et un podcast, Itinéraire Bis, ouvert ce compte Instagram et puis un autre sur TikTok. Elle donne des conférences jusqu'au Parlement européen, elle bosse pour devenir sophrologue et père aidante. Est-ce que, au milieu de tout ça, elle aura le temps de m'envoyer des vocaux qui me raconteraient sa vie? Oui, elle a dit oui. Et vous, vous allez passer 40 minutes dans la tête d'Abigail.
Là, je suis en train de parler, je suis en face d'un magnifique coucher de soleil. Je viens de faire une heure de méditation et ça fait un bien fou d'être un peu dans une bulle en dehors du temps et en dehors des gens. Parce que moi, c'est surtout ça. Je pense que mon anniversaire, j'ai besoin de le passer loin. Parce que faire mon anniversaire à Paris, je sais pas, moi je vis chez ma mère, donc chaque année passée chez ma mère dans exactement la même chambre et dans exactement le même appartement dans lequel j'ai grandi depuis que je suis toute petite, y a quand même un énorme sentiment d'échec. Moi j'ai l'impression d'avoir perdu énormément d'années. 9 mois passés dans des hôpitaux psychiatriques, quand j'étais ado, j'ai pas vécu mon adolescence correctement. J'ai perdu tellement de temps à être pas bien dans ma peau, pas bien dans ma vie, pas bien dans ma tête, avec des pensées suicidaires, à être complètement écorchée vive, à être en errance totale. J'ai passé tellement d'années dans cet état-là que bah, là aussi, je me dis, bon, bah voilà, 28 ans, plus les années passent et plus je sens le décalage avec mes potes qui ont exactement le même âge que moi, mais qui sont beaucoup plus accomplis, beaucoup plus sereins, sereines. Et je sais que là, dans mon travail ou même dans mes études, enfin, dans la fin de mes études, j'ai une revanche à prendre. Je sais pas, genre, quand on a le statut d'adulte handicapé, moi, je sais que j'ai vécu comme une espèce d'énorme rébellion en mode waouh, ok, j'ai deux fois plus à prouver que les autres. Je pense que c'est pas anodin si je me suis lancée autant dans l'activisme, dans le militantisme. Je sais que j'ai quelque chose à prouver, quoi. Il faut que je prouve que je suis pas en vie pour rien. Il faut que je prouve que ma vie a un sens. En tout cas, ma vie, ça peut pas juste être une meuf bancale et dépressive qui construit rien et qui en errance tout le temps. Donc il va falloir que je fasse un truc qui montre que j'ai ma place. Oh, je vais pleurer. Je vais pleurer. Voilà un peu l'état d'esprit aujourd'hui de mon anniversaire. Et je vais essayer de camoufler le fait que je me sente extrêmement émotive et que j'ai juste envie de chialer parce qu'on est dans un cadre festif. Je pense que je vais pleurer quand je serai toute seule et je vais m'enfermer demain dans mon lit à pleurer. Et aujourd'hui, je vais célébrer. Attends, je rajoute quand même un truc que j'ai oublié de dire avant d'y retourner parce que là, on va manger une quiche et ça sent trop bon. Bon, je suis végétarienne, donc c'est une quiche végétarienne, mais... Mon Dieu, heureusement qu'il y a des gens que j'aime et qui m'aiment pour passer ces caps difficiles. Je suis entourée que de personnes hyper sécures, quoi. Et ça, c'est une vraie célébration. Ça, c'est une vraie victoire. Ça, c'est réellement quelque chose pour lequel j'ai de la gratitude et que je chéris ça, mais tous les jours de ma vie. Mes potes, c'est ma vie, c'est le sang, ma famille, enfin, c'est... Heureusement qu'ils sont là, quoi qu'il se passe. Et c'est trop beau, quoi. Voilà, je pense que... Alors, moi, j'ai une nouvelle théorie sur les anniversaires. Arrêtez de me célébrer moi, célébrez vous. Et notre lien est le fait qu'on s'aime. Petit message de débrief du lendemain de ma soirée d'anniversaire. Bah, c'était trop bien. Vraiment, j'avais l'impression d'être dans une bande de potes que je connaissais depuis des années. Et ça fait trop plaisir. J'ai parlé hyper ouvertement de mes troubles psy. Je me suis pas sentie jugée du tout. Les gens étaient hyper ouverts d'esprit, super réceptifs. Bon, j'ai pas parlé que de ça non plus, mais on a discuté de voyages, on a discuté des projets qu'on rêve de faire, des métiers qu'on a envie de faire. On s'est éclatés. Puis ouais, on était que 8, mais en fait, on a dansé... à fond, on a chanté à fond, et forcément, les bougies, le gâteau, la chanson d'anniversaire, le petit discours, bah, je leur ai dit merci de m'accueillir, je passe un trop bon moment, une trop bonne soirée, je sais qu'on se connaît pas, mais franchement, énorme merci et tout. Et là, bah, je vais prendre le train, dans une heure, je suis arrivée chez moi, et puis voilà. Et c'est lent, et c'est calme, et c'est une petite bulle de sérénité, loin de tout, et c'est exactement ça dont j'avais besoin. Je réalise que j'ai besoin de très très grands espaces, et on sent que vraiment on respire, et que vraiment c'est la liberté. Chose que je ressens pratiquement jamais dans mon quotidien actuel, et c'est quelque chose... Je souffre beaucoup de me sentir hyper piégée, hyper oppressée dans la ville, dans les gens, dans le bruit. C'est vraiment un environnement qui n'est pas du tout adapté à mes besoins et à mon fonctionnement. Là, je te parle, je suis en face d'un lac qui est magnifique. En fait, j'ai l'impression d'être une enfant qui s'émerveille du monde tout le temps pour tout. Je vois un lac, je suis trop contente, je vois une fleur un peu jolie, je suis émerveillée. Tout à l'heure, j'ai vu un papillon blanc. J'ai bugué dessus pendant 10 minutes, je suis restée devant ce papillon. C'est vraiment les bonheurs simples. Avec moi, ça marche trop bien. Je pense que c'est une partie aussi de mon hypersensibilité qui se manifeste de cette façon-là. C'est je réalise que la plupart des gens voient pas, perçoivent pas peut-être le monde avec ce degré-là d'émerveillement. Et bon, voilà. Oui, quand on est borderline, de temps en temps, enfin, souvent, quand ça va pas, on broie des idées noires et des idées noires très très fort. Mais il y a aussi ce truc de... c'est quand même très facile pour moi de m'émerveiller de choses très très simples. Bon, c'est parti, je te fais un petit tour de ma maison. Alors là, clairement, je suis dans mon lit parce que c'est vraiment l'une des journées où je suis plus capable de fonctionner correctement. C'est le contre-coup d'avoir des journées hyper intenses, des pics émotionnels super forts. Bah, après, je suis complètement KO et je suis dans mon lit et j'arrive plus à bouger. Et bien évidemment, dans mon lit, il y a une peluche, un doudou, deux tigres. Mon doudou, il m'a accompagnée partout dans toutes mes hospitalisations en psychiatrie. Bon, il a une tête comme tous les doudous. c'est une peluche qui a vécu, quoi. Mais tout ça pour dire, j'ai tout le temps des objets qui jouent le rôle de support émotionnel. Parce que je peux pas être toute seule dans ma tête. Il me faut des doudous, quoi. Quand je voyage, c'est mon sac à dos qui s'appelle Elvis, parce que je donne une personnalité à Elvis. J'ai énormément de porte-bonheur et tout, je suis hyper giga superstitieuse. Bon bref, je me balade avec ma bouillotte, parce que la bouillotte c'est important. Et on va se lever du lit. Bah du coup ma chambre, c'est le gros bordel. Hein. Je sais pas, j'ai besoin de m'étaler partout. Genre des fois moi je me laisse complètement aller et j'en ai très honte, c'est pour ça que j'aime pas du tout quand des gens viennent chez moi. C'est là où je peux enlever mon masque et c'est là où je peux être un gros déchet humain si j'en ai envie. Et c'est horrible à dire, mais oui, ma chambre, ça témoigne aussi un peu de ce qui se passe dans ma tête, quoi. Ensuite, je sors de ma chambre. On arrive dans l'entrée, parce que ma chambre est juste à côté de l'entrée. Et en fait, là, on a une porte qui est trop bien. Parce que c'est ma mère qui est trop super et trop géniale. En fait, c'est plus, elle en avait marre que je travaille dans le salon. Du coup, on a une pièce qui est un peu la pièce de bordel. En fait, le problème, c'est que quand ta passion, c'est la peinture, et qu'en plus, moi, je fais des tableaux super grands. Et globalement, j'ai toujours des hobbies qui prennent de la place. Le voyage, hein, clairement, il y a 1 milliard de sacs à dos que j'ai achetés de plein de tailles différentes. Il y a des tentes, il y a des sacs de couchage, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a tout mon matos de podcast avec plein de caméras que mes potes m'ont passé pour les tournages de podcast. Enfin bon bref, c'est vraiment du bordel, quoi. Hop là, pour cette pièce. Ensuite, on a ici le salon. Ensuite, on a une porte coulissante, et là, c'est la cuisine. J'ai pas grand-chose à dire sur la cuisine, c'est là où on stocke tous mes médicaments. Je sais qu'il y a pas longtemps, ma mère, elle a fait un tri dans les médocs, elle jette souvent ce qu'il y a de périmé, parce qu'elle veut pas qu'il y ait des médicaments qui... Ouais, ça c'est une grosse histoire. Ma mère fait quand même très attention. Elle veut pas que ce soit forcément trop... facilement accessible. Bon, ça, c'est la conséquence de mon passif en psychiatrie. Tiens, hop là. En plus, c'est hyper cliché. C'est hyper cliché de la psychiatrie parce que c'est vraiment des petites pilules bleues, comme dans les films. Ouais, bon, en gros, j'ai des médocs pour quand j'ai des crises. Donc, ce qui est trop bien, c'est que je prends ça, là, et en 15-30 minutes à tout casser, ça me calme tout de suite. J'ai des stabilisateurs d'humeur. Ensuite, j'ai des antidépresseurs qu'au final, j'ai pas pris tant que ça, parce que, je sais pas, c'est un truc qui a jamais trop bien marché sur moi, personnellement. Cette boîte de médocs-là, c'est le Saint Graal. J'ai galéré à réussir à trouver un stabilisateur d'humeur qui marche. Bon, voilà, quoi, c'est une pharmacie de meuf avec des troubles psy. Ah oui, et à quelle fréquence je prends les médocs ? Je t'envoie tout en bordel. Hein. À quelle fréquence je prends les médocs? Du coup, stabilisateur d'humeur, c'est tous les jours, every day. Les petites pilules bleues de crise, ça, bah, c'est très exceptionnel. C'est ce qu'on appelle un si-besoin. Voilà, c'est si jamais tu fais une crise. Là, je suis très contente parce que j'ai trouvé un traitement qui me convient, où j'ai pas trop d'effets secondaires. En tout cas, c'est pas handicapant dans mon quotidien, donc ça, c'est cool. Mais ça m'a mis bien un an avant de réussir à trouver un truc qui marchait. Enfin, même si le médoc marche, si les effets secondaires sont hyper balèzes, ben en fait, c'est pas gérable, moi, dans ma vie, quoi. Et souvent, c'était ça. C'est, les effets secondaires sont tellement importants, j'ai tellement de nausées, j'ai tellement des migraines, j'arrive plus à réfléchir et tout, en fait, c'est pas possible. Donc voilà, mais j'ai été super bien accompagnée par un super bon psychiatre, donc là-dessus, j'ai vraiment eu de la chance, quoi. Ah, on m'a appelé, ça a coupé. Voilà, ça c'était pour la cuisine, le salon, le couloir. Hop là. Et forcément, salle de bain, miroir. Je sais pas trop quoi dire. Moi, quand je me regarde dans un miroir, franchement, aujourd'hui, ça va. Comparé à quand j'étais ado, je supportais pas me regarder dans un miroir, voir ma tête. J'avais une détestation de moi qui était si forte. J'étais dans un punitif, ce qu'on appelle le mode punitif. Super balèze, où je me faisais du mal physiquement. Forcément, j'ai des cicatrices sur mes avant-bras, j'ai des cicatrices sur mes cuisses, parce que je me suis, en gros, automutilée. Et j'ai fait ça pendant un certain temps. Et malheureusement, ces cicatrices, elles partiront jamais. Et toute ma vie, les gens vont me poser des questions sur mes cicatrices. En soi, je suis plutôt fière de moi et contente parce que aujourd'hui, je suis vraiment bien dans mon corps et bien dans ma peau. J'ai pas forcément de complexe physique, sauf ma peau. En gros, j'ai des cicatrices de boutons sur mon visage. Et ça, c'est un truc qui me complexe énormément parce que quand je testais, quand j'étais dans une phase très expérimentale où je testais plein de médocs en psychiatrie. Et en fait, j'ai eu des plaques de boutons si fortes. Genre vraiment, j'ai eu des poussées d'acné. Et du coup, j'ai fait une fixette sur ma peau. En soi, ma tête, ça va. Genre, je la déteste pas. Mais le seul complexe que j'ai, c'est vraiment... finalement, c'est les séquelles de la psychiatrie. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En fait, c'est vraiment... Moi, j'ai une obsession. Je ne veux pas que les gens, genre physiquement, voient que je suis malade. Je veux pas paraître amoindrie ou affaiblie. J'ai perdu tellement de poids lors de mes hospices en psychiatrie. J'étais toute tremblante et tout. Je veux pas paraître malade. Je veux paraître en bonne santé. Même si à l'intérieur, ça peut ne pas être le cas. Je veux pouvoir être en capacité de camoufler les choses. Si jamais vraiment c'est le chaos à l'intérieur, quoi. Nous revoilà face au miroir. Du coup, je suis Abigail. Je suis militante et activiste pour déstigmatiser le trouble borderline. J'ai pour ambition de changer le monde. Rien que ça.
Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Itinéraire Bis, où tu vas découvrir le témoignage de Anna du compte Instagram La Santé Mentale Compte. Je te souhaite une très belle écoute.
Ok, merci de m'accueillir.
Aujourd'hui, c'est une journée enregistrement de podcast. Et c'est vrai que lancer ce média et traiter des thématiques de santé mentale, de troubles psychiques, etc., ça fait partie intégrante de mon militantisme, of course. Parce que j'interviewe que des personnes en situation de handicap et c'est pour la représentation, la visibilité, avoir un maximum de parcours. Moi, j'ai été l'une des pionnières à prendre la parole sur le trouble borderline dans la francophonie. À l'époque, il y avait pratiquement aucun témoignage qui existait, à visage découvert et de façon assumée. Et je me suis démenée comme jamais pour qu'on parle du trouble borderline le plus possible dans la sphère médiatique. En fait, c'est pas possible pour moi de me dire déjà tout ce que je vis, c'est super dur, mais en plus de ça, la stigmatisation liée à ça est d'autant plus compliquée dans le sens où, pour moi, je trouve que c'est vraiment la double peine. T'as souffrir du trouble et t'as souffrir de l'image que les gens ont du trouble. Et la grosse partie de mon militantisme et de la création de mon podcast et de ma chaîne YouTube et de mon média, c'est de changer l'image que les gens ont du trouble et de voir que, bah non, on n'est pas des gens complètement fous, entre guillemets. On est des gens normaux qui vivons avec des difficultés assez conséquentes, totalement invisibles, etc. Donc voilà, ça c'est le point de départ de mon propre média aussi, parce que finalement je me suis sentie très seule. En fait, je sortais d'hôpital psychiatrique, je venais de vivre une hospitalisation qui avait été profondément maltraitante. On m'avait diagnostiqué borderline. Je pensais que c'était l'effondrement de toute ma vie, que jamais j'allais réussir. Je me suis vraiment sentie condamnée. Le jour où on m'a annoncé mon diagnostic et tout, c'était quand même super dur. Et il y avait un truc à l'intérieur de moi de là, j'ai la force de parler. Ce qui n'a vraiment pas du tout été le cas avant. J'ai retrouvé ma voix. J'ai besoin d'être entendue. Il faut que des gens sachent. Il faut que les gens comprennent. Et que les gens... quand j'allais en soirée, qu'on me disait « Tu fais quoi dans la vie ?» et que moi, j'étais en hôpital psychiatrique. Et que, en fait, la personne ne me parle plus de toute la soirée et m'évite tellement elle a peur de moi. Moi, je le vis tous les jours, ce truc. C'est un truc qui impacte tous les domaines de vie. Et totalement... invisible, parce que quand on me rencontre, on se dit c'est Abigail, elle est super solaire, super souriante et super tout, mais en fait mais le darkness qu'il y a eu, le chaos, être dans ma tête, c'est vraiment pas des vacances, quoi. Donc j'ai commencé à prendre la parole là-dessus sans trop, je pense que j'étais un peu naïve au début, je pensais vraiment que c'était juste je partage mon expérience et c'est tout, et je voyais pas la dimension militante du truc. Et en fait, mon militantisme, ça s'est fait au fil des années, au fil des témoignages. Ça a été en allant au Parlement européen, en comprenant qu'en fait, la santé mentale, c'est politique. Ça a été les réseaux sociaux, ça a été comprendre l'impact que ça avait sur les gens, comprendre tout ce qui se passait en psychiatrie aussi. L'injustice, je supporte pas. Le rejet des gens différents, je supporte pas. La société, la vie telle qu'on la propose, c'est-à-dire pas du tout inclusive avec les personnes handicapées, psychiques, je supporte pas. Donc maintenant, c'est comment on va penser les choses différemment pour que les gens qui ont des difficultés psychiques puissent être inclus dans un mode de vie qui soit respectueux de leur mode de fonctionnement, qui soit flexible. Comment on peut prendre en charge les gens, les soigner, les stabiliser, tout ça, quoi. Et du coup, pour moi, mon podcast et mes tournages, c'est la safe place hyper sécurisante. On n'est que entre personnes concernées du trouble borderline en plus de ça. Donc vraiment, il n'y a aucun jugement, rien du tout. Et les gens ont vraiment l'espace de s'exprimer comme ils le souhaitent. Je dirige très peu mes interviews. Je laisse la personne parler de ce qu'elle souhaite. Enfin bref, j'ai un peu créé le truc que j'aurais rêvé connaître au début. Et j'adore ce que je fais, c'est trop bien. Là, du coup, j'attends ma pote qui va arriver dans 20 minutes. Et je suis à une terrasse en train de profiter du soleil et de souffler un peu parce que cette journée a été intense. Et tu vois, finalement, quand j'étais en train d'enregistrer, je me disais, en réalité, ces tournages-là, je le fais aussi pour moi. Moi, ça me fait trop du bien. Ça me donne énormément espoir dans le monde, dans les gens, dans la société. Ça redonne du sens à toutes mes activités, à tout mon quotidien et tout. Et en fait, je crois que je vis pour avoir des conversations comme ce que j'ai avec mes invités à podcast, quoi. Je vis pour ça. Et en fait, à la fin du podcast, j'ai l'impression qu'on a vraiment réussi à tisser un lien. Et en fait, c'est ça que je cherche dans mon taf. À chaque fois, je cherche à créer le lien humain. Parce que des gens trop neutres, j'ai du mal. Les gens que j'arrive pas à cerner, j'ai du mal. Les petites conversations qui ont pas trop de sens, j'ai énormément de mal aussi. Moi, ce qui me parle dans les épisodes de podcast, c'est les gens qui ont vécu des épreuves super balèzes et qui s'en sont relevés. C'est les gens très écorchés, vifs. C'est les gens qui vont te dire « Ouais, j'ai fait une dépression. Ouais, ça a été dur. Ouais, j'ai eu des échecs hyper balèzes. » C'est beaucoup, beaucoup d'intensité, en fait. Les journées à podcast, moi, ça m'épuise psychiquement. Mon invité me raconte des choses. Je ressens l'émotion avec lui. Donc là, je suis contente de voir ma pote. Ma meilleure pote, c'est un soleil. Plus que tout, je ne l'ai pas vue depuis super longtemps. Donc voilà, j'ai trop hâte de la voir. Juste son sourire, et ça efface tout.
Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi ? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, sinon je perds pied, je sais plus où aller, ni comment je m'appelle. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi ? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, c'est n'importe quoi. Faut que tu m'aimes plus fort que moi-même, plus fort que moi-même. Plus en moi-même que moi.
Alors, j'ai fait une playlist que j'ai appelée Borderline Mood, qui est participative et collective parce que c'est tout le monde qui rajoute ses musiques et tout, donc j'aime trop. Et forcément, moi, j'ai mis mes musiques qui m'ont accompagnée quand j'étais au fond du trou en hôpital psychiatrique. Faut que tu m'aimes. La chanson, elle s'appelle comme ça. J'aime bien parce qu'elle est entraînante et tout, et qu'elle est un peu Pepsi. Alors que pourtant, moi, elle fait tellement écho au trou borderline, c'est tellement impressionnant. Le truc de « faut que tu m'aimes parce que moi, j'y arrive pas », c'est tout le temps chercher la validation d'autrui. C'est-à-dire que si les gens me trouvent super, je vais dire que je suis super et donc la parfaite. Et si les gens ne m'aiment pas, du coup, c'est la monstrueuse et donc détestable.
Pourquoi je remarque que les pouces s'emballent les mauvais démons? Pourquoi j'entends pas bien quand tu dis c'est bon? Pourquoi j'entends c'est nul quand tu dis c'est super? C'est super. Pourquoi j'attends toujours l'autorisation? Pourquoi y a pas de confiance dans ma maison? Pourquoi je cherche toujours à plaire? Dis-moi que toi aussi t'es comme ça. Toi aussi t'es comme ça.
Bon, c'est parti. Ce matin, c'est un matin très, très, très particulier parce que pour la première fois de ma vie, je vais faire une thérapie de couple. Mais alors, une thérapie de couple avec mon ex-copine où ça fait un an et demi qu'on est séparés. On est restés 3 ans ensemble. Thérapie de ex-couple. Voilà, c'est un concept parce que jamais rien n'est normal dans ma vie, of course. Donc je suis super stressée, tellement stressée que je suis arrivée 1 heure en avance. Donc là j'ai décidé de me poser, prendre un café dans un bistrot. Voilà, petit café du matin, on démarre lentement pour essayer de faire baisser un peu le stress. Of course, je me suis mise en bombe atomique, hein, parce que règle numéro 1, il faut toujours se mettre en bombe atomique et super belle dès qu'on voit son ex. Donc j'ai mis le paquet sur la tenue. Bon, bref, c'est pas grave. J'ai hâte de la voir. Donc pour l'histoire un peu, c'est ma relation la plus saine et la plus stable que j'ai jamais eue dans ma vie. On est restés 3 ans ensemble. Elle m'a connue avant le diagnostic de borderline, pendant, quand j'ai fait toutes mes hospitalisations, et après, quand j'ai été un peu plus stable et rétablie. Donc elle a joué un rôle dans ma vie hyper important. Je pense que la plupart des personnes m'auraient quittée. Quand j'étais hospitalisée, on ne savait pas du tout combien de temps ça allait durer. J'avais plus le droit d'avoir aucun contact avec l'extérieur. Et elle, elle est restée. Et ce que cette relation m'a apporté quand même, c'est qu'en fait, on s'est séparés après 3 ans de relation pour des raisons qui sont totalement indépendantes de mon trouble borderline. Et ça, c'est quand même très rassurant pour moi parce que c'est un peu grâce à elle que j'ai compris que je pouvais être aimée avec mes difficultés psychiques. Il s'avère que la vie nous a remis en contact de façon un peu... On s'est revus, on s'est reparlés. Et en fait, je lui ai proposé qu'on fasse une thérapie de couple. Parce qu'en fait, moi, avec mon trouble borderline, je suis tout le temps paralysée par la peur que les gens me quittent. Donc je fais tout pour être aimée et validée par les autres. Le souci, c'est que du coup, dans notre couple, y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas et je ne verbalisais rien du tout. Et il s'avère que depuis qu'on est séparés, on n'a jamais aussi bien communiqué l'une avec l'autre depuis qu'il n'y a plus d'enjeux. Et moi, c'est ça qui m'a un peu poussée à me dire bah là je pense que c'est le bon moment pour qu'on fasse une thérapie de couple, pour avoir une vision assez claire de ce qui s'est passé dans notre relation et tout. Moi personnellement, ce que j'ai décidé durant cette thérapie de couple, c'est de jouer carte sur table. J'espère que mon ex-copine fera pareil et qu'elle videra tout son sac. Et que ça va vraiment nous aider pour le futur et l'avenir à avancer. Sinon, j'ai quand même des petites appréhensions parce que bah, la thérapeute, je ne la connais pas. Il y a aussi la réalité qu'on est un couple lesbien. Et ouais, j'espère que la psy que j'ai pris, le premier contact va être bon. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression qu'au téléphone, ça passait. J'espère qu'elle est LGBT friendly, j'espère qu'elle est sensibilisée à ces questions-là. Et je suis quand même assez convaincue que les couples hétéros et les couples gays, bah, on a des problématiques qui sont différentes. Donc voilà. Et c'est le stress ultime. J'espère que ça va bien se passer. Ouais. Alors, beaucoup de trucs à dire. La thérapeute est trop bien. On sent qu'elle nous a assez vite cernés. Donc ça a vraiment fait du bien. Chacune a eu l'espace de s'exprimer et tout. Donc voilà, on a refait un peu la rétrospective de l'histoire. Ah. Bon, j'ai ma mère qui vient de m'appeler parce que j'ai le dîner d'anniversaire ce soir que j'avais complètement zappé. La journée aujourd'hui est super balèze. Waouh! Là où moi, ça a été un sacré coup dur et ça m'a beaucoup chamboulée, c'est que je suis carrément borderline. La psy a très très vite vu que j'avais une façon de voir la vie qui était super binaire. C'est tout blanc ou tout noir. Et il y a zéro nuance. En fait, il y a deux options possibles pour moi dans le couple. La première option, c'est tout noir. C'est, on a une vie, on va dire, classique, avec un petit appart en banlieue parisienne, avec nos bandes de potes, nos petites soirées et tout. Et un peu, moi, je me vois piégée, enfermée dans un modèle de vie qui ne me convient pas du tout. Versus la seconde option, qui est, moi, mon couple idéal, c'est-à-dire vivre dans les montagnes, avec des animaux, en pleine nature, où je pourrais faire plein de projets, entreprendre plein de choses, être en même temps avec la future femme de ma vie, dans une petite cabane en bois, avec un lac, partir de temps en temps, marcher sur plusieurs jours, faire du bivouac en tente et tout. Un truc hyper idéaliste. Voilà. Et vraiment, il y a deux options possibles. Et si c'est pas l'une, c'est l'autre. Et ça, c'est hyper représentatif de ma façon de penser. Quand je me décris, moi, comme la parfaite, la monstrueuse, soit je suis Abigail, la parfaite, avec un truc hyper idéaliste, à la seconde où il y a un micro-truc qui me montre que je ne suis pas la parfaite, je rebascule d'un extrême à l'autre. Et en fait, que la thérapeute ait vu ça tout de suite chez moi, c'était dur, quoi. C'était dur parce que c'est totalement les problématiques de ma vie, en fait. Moi, il me faut 3, 4, 5 vies. Une vie ne va jamais suffire. J'ai une façon de penser les relations où je fusionne totalement avec la personne parce que je ne sais pas aimer autrement qu'en donnant mon 2000% à une personne. Et en fait, ce qui m'a fait flipper, c'est que j'ai senti que mon ex-copine, mais comme n'importe qui, je pense, ça fait peur. C'est pas réaliste, c'est pas rationnel. Et en même temps, moi, je peux pas vivre la vie sans substance. Je peux pas. Il faut que ce soit intense. Il faut que je me sente vivante. Et voilà, ça m'a mis un sacré coup dur parce que je me suis dit, mais tel que moi, je décris le couple, n'importe quelle personne rationnelle ne serait pas prête à signer pour ça. Et c'est vachement dur. J'ai un peu envie de pleurer. Je sais pas. Oh, je suis hyper déprimée en vrai là. Je suis en bad. Vraiment, je suis en bad. Je pense que si tu me parles demain, ça ira mieux. Mais là, aujourd'hui, compliqué. Et petite précision quand même, c'est vrai que c'est dans ces moments-là où je me dis « Putain, si j'avais pas été borderline, ma vie aurait été tellement plus simple. » Mais c'est pas grave, on va faire avec. Et on va... Et ça va le faire. Franchement, le budget thérapie quand on est borderline, c'est vraiment un budget fatal, quoi. Alors qu'il y a des couples... Genre, ils se bêtent ensemble et ça marche. Ils ont de la chance et ils s'en rendent même pas compte. Alors que moi, borderline, waouh, le couple, c'est une thématique. S'il vous plaît, donnez-nous les codes. Bref, je n'ai pas les codes pour les relations entre êtres humains. C'est super galère, je comprends rien. Enfin, il n'y a que les gens valides qui comprennent comment ça marche. Parce que franchement, rien compris, moi. L'école, moi j'ai jamais compris l'école. C'est fou. Moi je pense qu'il me faut une école spécialisée de borderline. Des gens, bah voilà, très extrêmes, très poussés dans leur. Voilà, qui sont très intenses, qui fusionnent, qui ressentent le monde fois mille, qui font des effondrements. Et voilà, ils nous prennent tous et ils nous expliquent, voilà l'école de la vie, comment ça marche, voilà les relations, comment ça marche, voilà le travail, comment ça marche, voilà nanana. Parce que moi, je dois faire je sais pas combien de séances de psy, avec plein de psys spécialisés dans plein de domaines. Voilà, la thérapie de groupe, ils sont spécialisés dans le trouble borderline. Bah, c'était un peu ça, en fait. Hein. C'était un peu l'école de la vie, de la thérapie de groupe, en hôpital psychiatrique, avec des psys qui nous expliquent, regardez comment ça fonctionne les êtres humains. Ça, c'est la base de la communication non violente. Oh, waouh, merci. Bah là, le couple, c'est pareil. Voilà, une psychologue spécialisée dans le couple qui me dit « Voilà comment ça marche, le couple. » Oh, le caca nerveux que j'ai fait. Je pourrais parler comme ça pendant 1000 ans tellement j'ai des coups de gueule à faire. Mais tu n'as pas toute ta soirée, et moi non plus. Ok, donc là, je vais à l'hôpital psychiatrique. Faire mon stage, trop contente, ça va être une trop bonne journée, je vais apprendre plein de choses, donc j'ai trop hâte. Et je pensais pas dire ça un jour, mais ça me fait super plaisir d'aller dans un hôpital psychiatrique. Et j'ai vraiment l'impression que c'est le début d'une nouvelle page qui se tourne dans ma vie. Travailler dans des hôpitaux psychiatriques au contact de personnes qui sont diagnostiquées borderline, c'est ce que je veux faire pour tout le reste de ma vie. Donc j'ai un diplôme universitaire en rétablissement en santé mentale et d'ici l'année prochaine / l'année d'après, j'ai pour ambition de faire la licence de médiatrice de santé pair. Donc la pair aidance, c'est des personnes qui, en l'occurrence, vivent avec des troubles psychiques, qui sont rétablies, qui vont intervenir dans soit un cadre associatif, soit un cadre hospitalier, pour d'autres personnes diagnostiquées des mêmes troubles. Et ça, c'est le job de mes rêves. Donc j'ai beaucoup de jobs de mes rêves. Job de mes rêves, sophrologue. Je vais être stagiaire sophrologue. On est sur du concret. C'est une technique psychocorporelle de détente, de relaxation. Enfin, c'est trop bien, quoi. Il m'a fallu des années pour en arriver à aujourd'hui. C'est la première fois que je suis dans un hôpital psychiatrique et que je ne suis pas une patiente. De découvrir les coulisses, finalement, d'un milieu que je connais très bien. J'ai vraiment un sentiment d'accomplissement super fort. Ça me conforte encore plus dans mon avenir professionnel. Je sais que j'ai ma place. Je sais que c'est ça qui me fait vibrer. En fait, j'ai galéré pendant tellement d'années pour être stabilisée, pour être établie, pour savoir ce que je voulais faire dans ma vie, pour être diplômée alors que j'étais hospitalisée en psychiatrie et je continuais à étudier parce que je voulais pas rater mes diplômes et tout. Et là, c'est mon stage de fin d'études. Ça y est, on y est. Enfin, si c'est comme ça pour tout le reste de ma vie, mais ça va être trop du kiff. Alors que, pour la petite histoire, quand je travaillais en finance, parce que de base, moi, j'ai une licence en finance, je me disais, mais si ça va être comme ça pour tout le reste de ma vie, je vais clamser. Je faisais des crises d'angoisse et tout, c'était horrible. C'est vraiment une boussole intérieure à écouter, je pense. Et que pour trouver cette boussole intérieure, bah, il faut tester plein de choses, plein de chemins, plein de taf. Mon Dieu, j'ai testé 1 milliard de taf, plein de psys différents, plein de thérapies, plein de médocs, avant de trouver le truc qui convient. Et en fait, c'est déclinable à la vie tout entière. Hein. C'est tout le temps un chemin de recherche. « bon, là ça résonne un peu parce que c'est l'hôpital. Et bien évidemment, bah, je ne peux pas enregistrer ce qui se passe dans un hôpital parce que c'est confidentiel. Voilà. Mais c'est parti pour le stage. Bon, bah c'est bon, la première journée de stage est finie. La journée était super cool. L'équipe est super bienveillante. Je prends mes marques aussi dans l'hôpital, les différentes salles. Je vois, moi, comment je peux réaménager la salle pour mes groupes de sophrologie. Donc, c'est cool aussi qu'on ait du temps en équipe, juste pour faire connaissance. Pour la première journée de stage, journée sympatoche. Ah oui, je pense aussi que ce qui a vraiment considérablement amélioré ma qualité de vie, c'est que j'ai compris que l'instabilité, c'était ça qui m'épanouissait. Le fait d'avoir plusieurs activités, d'avoir plusieurs métiers, de tout le temps avoir ce besoin d'apprendre, d'évoluer, de tout ça. En fait, c'est ça qui a totalement soulagé des grosses souffrances que j'avais de « je suis inapte à la société, je n'arrive pas à me conformer » et tout. Pour moi, il y a une cohérence énorme entre toutes les activités que je fais. Elles sont toutes centrées sur la santé mentale. C'est ça que j'adore et en fait, c'est un signe que je vais bien, en fait. C'est le bordel, mais il faut que ce soit bordélique. Parce que pour moi, c'est le mouvement. C'est là où je me sens en vie, quoi, en fait. Et non, c'est pas péjoratif, une vie bordélique. Quand on est borderline, ou en tout cas comme moi je vis mon trouble borderline, en fait une vie bordélique, c'est hyper adapté à ce qui se passe dans ma tête. Faut juste un peu lâcher les dictats de la société de « c'est carré, il faut que ce soit carré, parce que si c'est pas carré, que toi t'es un rond, du coup tu rentres pas, et du coup les gens ils arrivent pas à te mettre dans la case qu'ils veulent. » Parce que c'est ça en fait. Hein. Oh mon Dieu, j'ai vraiment l'impression que les gens, s'ils ont pas de case à cocher dans lequel te mettre, ils paniquent, ils savent pas quoi faire de toi. C'est un peu la sensation que j'ai eue pendant toute ma vie. Et là, moi, il n'y a pas de casse. Et c'est ça aussi qui est hyper cool. C'est genre, chacun son fonctionnement. Chacun a des besoins spécifiques. Là, en l'occurrence, c'est dans ma vie professionnelle. Dans ma vie amoureuse, on l'a vu en thérapie de couple, c'est le bordel, c'est l'instabilité. Mais là, maintenant que tout est en train de se dénouer, tout est en train de se mettre en place et que j'arrive enfin à voir en quoi toutes ces années de très grosses souffrances ont servi, entre guillemets. C'est un peu chelou de dire comme ça, mais c'est vraiment comme ça que moi, je le ressens. Je sais que je suis alignée avec moi-même. Et en fait, il n'y a pas de honte à avoir là-dessus. Bref, je suis super émue aujourd'hui. C'est septembre, c'est la rentrée des classes où tout le monde est hyper ému de les enfants qui font leur rentrée. Moi, c'est exactement la même chose avec l'hôpital. C'est genre la rentrée que j'ai attendue 10 ans pour la faire, quoi. Voilà. Je suis déçue qu'il n'y ait pas ma maman qui m'attende à la sortie de l'hôpital pour me féliciter avec un goûter. Le jour où je vais signer un CDI en hôpital psychiatrique, je veux avoir ma meilleure pote qui m'attend avec un goûter. Voilà, je lance cet appel. Gros bisous.
Cet épisode a été réalisé par Anne Lioreau et Fanny Boyon, mixé par Basile Bocquer et Baptiste Collion. Dans la tête de est un podcast original de France Inter.